Salut à tous. Il a inventé un des personnages les plus populaires de ces 30 dernières années. Il aurait pu se contenter du succès phénoménal de son jeune héros à mèche blonde, mais non. Il a exploré d'autres voies graphiques, il a pris des risques éditoriaux et même parfois musicaux. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Zep.
Dans l'atelier BD, saison 2. Un podcast original proposé par Paul Satis.
Salut Zep.
Salut.
Titeuf est né en 1992 et tu viens tout juste de terminer son 18e album qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Suivez la mèche.
Bon, donc c'est la première fois d'ailleurs que la mèche est dans le titre.
Ouais, je crois.
Avec une belle régularité, il faut le dire, il y a un Titeuf tous les deux ans, les années impaires, ça tombe bien, on est en 2023. On y reviendra en détail tout à l'heure sur la création d'un Titeuf. Mais d'abord, c'est quoi pour toi un nouveau Titeuf ? Est-ce que c'est un plaisir renouvelé ? Est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que c'est des nœuds au cerveau ? Est-ce que c'est une grosse pression ? Ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois ?
Alors non, c'est jamais une contrainte parce que c'est moi qui décide d'en faire un. Et c'est un rendez-vous en fait. J'aime bien retrouver ce personnage. Il se passe jamais beaucoup de temps sans que je travaille sur Titeuf parce que même entre deux albums, je vais faire. Il va y avoir une exposition, une traduction, j'ai un podcast, un dessin animé. Enfin, il se passe toutes les semaines des choses autour de Titeuf. Donc je suis souvent sollicité. Mais l'album, c'est quelque chose de particulier parce que c'est beaucoup plus. Enfin, on doit s'immerger dans l'univers du personnage et pendant quelques mois n'être plus que Titeuf un peu. Et ça, c'est un rendez-vous que j'aime bien parce que pour moi, c'est une espèce de rendez-vous avec l'enfance. Je m'aperçois avec stupeur que j'ai depuis 30 ans et que ça continue. Mais j'aime bien avoir régulièrement ce rendez-vous, partir vers d'autres choses et puis après revenir. C'est une sorte de terrain de jeu que j'ai. Dont j'ai dessiné un peu les contours au fil du temps, j'ai choisi, créé des personnages, enfin le truc c'est construit et c'est développé avec le temps, et puis maintenant ben voilà, il est une espèce de cohérence d'espace de plus en plus grand, et j'aime bien m'y retrouver, j'aime bien en fait remettre le costume de l'enfance. Pour moi c'est une sorte de perpétuation de ma propre enfance. J'y retourne et je trouve que c'est assez cool, étant donné que je fais un métier qui est un métier d'enfant. Enfin, c'est un métier que les enfants dessinent. Moi, je dessinais quand j'étais enfant. Je voulais faire de la BD. Voilà, j'ai accompli ma promesse que je m'étais faite. Et donc, c'est une manière de retrouver cet âge-là.
Alors, on va commencer, avant de revenir sur la création d'un Titeuf, à parler de ton atelier. Je me souviens dans une interview que tu avais comparé à l'époque où tu avais fait l'album Un monde étranger beau, que tu comparais cet atelier à une cellule monacale. Alors c'est quand même un petit peu plus grand qu'une cellule monacale.
C'est un peu plus meublé, quoi, parce qu'une cellule monacale, il n'y a rien dedans. Là, on ne peut pas dire que ce soit dépouillé. Il y a énormément de trucs. En fait, c'est une sorte de biotope pour moi. C'est ma chambre idéale. C'est-à-dire que j'ai des bouquins, des vinyles, mes guitares, tout ce qui est, alors tous mes carnets de croquis, mes dessins, tout mon matériel de dessin, et puis beaucoup de dessins de gens que j'aime, qui sont là, que j'ai collectés au fil du temps, des figurines, des choses envoyées par des fans, des restes d'exposition. Alors beaucoup, il y a du Titeuf un peu partout, hein, il y a des choses qui sont entassées, comme c'est très grand. J'ai eu tendance à garder plein de choses que normalement peut-être on jette, mais moi je suis allé, j'ai la place, je les mets, et petit à petit au fil des ans, ça fait 15 ans que je suis dans cet atelier, il s'est extrêmement rempli.
Alors on va essayer d'écrire quelques trucs quand même. Déjà derrière nous, ce qui frappe la première fois, c'est quasiment le premier truc qu'on voit quand on rentre, c'est une mèche, puisqu'on parlait de mèche tout à l'heure, une mèche géante. Peut-être un lampadaire d'ailleurs, parce qu'il y a une ampoule dessus.
Ouais, c'était du mobilier d'exposition pour le... Ça doit être le Salon du Livre de Genève, il y a...
Tu récupères à la fin des expos, tu vas dire, filez-moi la mèche, elle est cool.
Non, c'est un peu une surprise, quoi. Ils m'ont ramené l'expo, puis ils m'ont dit, on t'a amené une mèche. C'est ça que je l'ai gardé. J'ai comme ça aussi une espèce de distributeur géant de bonbons Pez à mon effigie, qui sont des bonbons Zep, qui avait été fait pour l'exposition du Festival d'Amiens. Un jour, ils sont venus amener une autre exposition, beaucoup plus tard, à Genève, et ils ont profité d'amener cet élément-là. C'était une surprise, pareil. Ils ont un peu souffert, parce que tu as vu, il faut monter pas mal d'escaliers pour mon atelier, et c'est quand même un élément assez lourd. On a la réplique de la statue du musée Grévin. Titeuf est au musée Grévin depuis 2000, euh, 5, je
Titeuf
crois.
Est au musée Grévin, je ne savais pas.
Au musée Grévin. Ouais, il y a un petit endroit pour les personnages de fiction où il y a quelques personnages de bande dessinée.
Sacrée consécration, non ?
Et ouais, c'était assez cool d'être intronisé au musée Grévin. Et comme ils font toujours deux statues pour pouvoir la nettoyer, et quand ils la nettoient, que l'emplacement ne soit pas vide, je leur ai dit, tant qu'à faire, faites-en une troisième. Et puis, donc j'en ai une qui trône dans mon atelier. C'est très lourd aussi. Donc, elle est souvent utilisée, elle voyage un petit peu, elle va dans des expositions. Et puis autrement, c'est bourré de cadres.
Et alors, oui, c'est ça, il y a beaucoup de dessins quand on monte dans ton atelier. Donc, je précise, on est au dernier étage de ta maison, on est à Genève, puisque tu es suisse, tu es genevois, tu es né à Genève et tu vis toujours à Genève. Et donc, quand on monte dans l'escalier, il y a des dessins, n'importe quel amateur de BD tomberait à la renverse. Donc, il y a un dessin de Crumb, il y a un dessin de... Enfin, il y en a des tonnes.
En fait, il y a beaucoup de Titeuf au mur qui sont faits par d'autres dessinateurs.
Un Titeuf fait par Moebius, c'est pas rien.
Par Moebius, par Uderzo, par Liberator, il y en a énormément, il y en a plus d'une centaine. Et c'est des choses qui ont été collectées au fil du temps. Au début, c'était un jeu, on se trouvait en festival avec des copains. Comme Titeuf avait une tête assez facile à transposer, on faisait souvent des espèces d'échanges. Tous les dessinateurs connaissent ça. Fin de festival, il y a une nappe en papier, elle est vite recouverte de dessins. On va dessiner des Mickey, des Donald, les personnages qu'on aime. Et puis, comme Titeuf était assez facile à faire, même si au début, il n'était pas tellement connu, c'était un jeu. J'ai ramené pas mal de Titeuf dès le début, quand je revenais de festival. Puis petit à petit, il y a eu des expositions, on a demandé à des auteurs d'en faire. Donc je retrouve avec une collection incroyable de Titeuf dessinés par plein d'artistes de la profession.
Quelques planches aussi, il y a un Gottlieb derrière toi.
Oui, alors il y a une planche d'Hamster Jovial, qui est ma planche préférée d'Hamster Jovial que Gottlieb m'avait offerte.
Tu collectionnes, t'achètes ou non ? C'est vraiment
je suis pas collectionneur vraiment, mais voilà, pareil quoi, au fil du temps, les rencontres ont fait que j'ai acheté quelques planches. J'ai une vieille planche de 1917 de Crazy Cat, parce que je suis un fan de George Herriman, qui est au mur. J'ai autrement des planches pour lesquelles que j'ai reçues, où on a fait des échanges avec d'autres dessinateurs. J'ai une planche de Conrad du Piège Malais. Du piège malais ou du piège maltais.
Oui, le piège malais, ouais, c'est ça. Juste, ouais.
Que Conrad m'avait offert il y a très très longtemps, dans les années 80. J'ai une planche de René Haussmann, une magnifique planche à l'entrée de Dominique Bertaille.
Tu t'arrêtes parfois devant ces planches en disant
ouais, wow. Souvent, ouais, j'arrête. Puis souvent, quand des gens viennent visiter l'atelier, c'est aussi c'est une sorte de petit musée. J'ai une splash page du Spirit de Will Eisner. Il y a des trésors, puis c'est marrant, c'est aussi, il y a aussi des gens qui ne sont plus là. Quoi. Il y a un Titeuf par Roba, par Gottlieb, par Uderzo. Ce sont des gens qui ont beaucoup compté pour moi, et c'est une manière de... cette planche de Hamster Jovial dont tu parles, toi, elle est face à ma table de dessin. Donc tous les jours, je suis face à cette planche qui me rappelle la présence de Marcel Gottlieb.
Ça challenge un peu Marcel Gottlieb.
Ah, ça, c'est un sacré challenge. Ouais. Challenge inatteignable, mais ça fait du bien de l'avoir, d'être sous son regard.
Et puis au milieu, donc, on mettra les photos, bien sûr, comme on fait à chaque fois sur Instagram. Au milieu, donc, il y a ta planche à dessin avec du dessin. C'est du dessin à l'ancienne. On en parlera tout à l'heure de ta façon de travailler avec une vieille chaise élimée, puis la planche de dessinateur comme on l'imagine, quoi. Mm-hmm.
Ouais, qui est assez petite dans ce grand atelier, mais qui a déjà grandi, parce que mon ancienne table, c'est celle qui était derrière toi, qui est devenue ma table, qui me sert à faire la table lumineuse. Et je me suis rendu compte que de toute façon, quelle que soit la taille de la table, en quelques jours, elle est entièrement recouverte de bordel, donc autant qu'elle soit pas trop grande.
Et puis deux fauteuils qui ont l'air assez accueillants. Est-ce que c'est un endroit où tu vas te poser assez régulièrement ? Est-ce que c'est là qui naissent les idées ? Ou est-ce que c'est là que tu vas bouquiner, simplement ?
Moi, c'est plus un lieu pour les rendez-vous, parce qu'on fait aussi des rendez-vous ici. Alors aujourd'hui, il fait très chaud, on est en plein été, il fait très chaud dans l'atelier qui est sous les toits, mais d'habitude, c'est un lieu assez agréable, donc on fait des rendez-vous de boulot, ou les interviews, on les fait plutôt là. Parce qu'il y a aussi toute une vie... public de l'atelier. Il y a souvent des gens qui viennent le visiter, des équipes télé qui viennent tourner ici. Donc,
ouais, tu l'ouvres assez facilement. On est très content, hein. On est très flatté d'y être.
Facilement, pas trop souvent, parce qu'il faut quand même travailler, mais il y a en tout cas une fois par semaine quelqu'un qui vient. Ouais.
Et beaucoup de merchandising, alors de merchandising Titeuf, de statuettes de Titeuf, il y en a vraiment partout, de toutes formes, de toutes sortes. C'est vraiment un personnage qui se prête bien, ça.
Oui, puis il y a des trucs qui ont existé mais qui n'existent plus. Il y a des choses qui n'ont jamais existé, qui sont des prototypes. Il y a des choses un peu insolites qui ont été envoyées par des fans ou trouvées sur des marchés, des pirates, des trucs. Enfin, il y a toutes sortes de choses.
C'est souvent que des fans envoient des trucs ?
Ouais. Assez, un peu moins maintenant. Maintenant, les gens envoient plus des messages sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque du courrier physique, je reçois toujours beaucoup de dessins, en fait, de dessins d'enfants. Mais je recevais aussi des bricolages, des figurines, des paper toy artisanaux faits par des fans.
Tu fais quoi quand un enfant t'envoie un dessin ? Tu lui réponds ?
Généralement, je lui réponds toujours, ouais. Après, ça dépend. Tu vois, par exemple, là, c'était les 30 ans, il y a eu un concours de dessin. J'ai reçu 600 dessins. Là, j'avoue que j'ai pas répondu. Il y a toute une école qui m'a envoyé des dessins. Alors, j'ai fait une lettre pour toute l'école et j'ai été amené une trentaine de bouquins pour l'école. Mais généralement, oui, j'aime bien répondre. Je trouve que c'est important. Quand ce sont des enfants, après, quand c'est des collectionneurs qui m'envoient leurs bouquins pour la 20e fois, au bout d'un moment, je réponds plus, non.
C'est gentil finalement, je t'avais déjà vu en dédicace, quand c'est pas l'heure des dédicaces et qu'un enfant vient te voir avec un livre, tu lui fais un titeuf.
Ouais, même un adulte, je trouve que c'est... on fait ça pour faire plaisir aux gens. Donc si on n'a pas envie, il ne faut pas le faire. Moi je vais peu en festival, mais quand j'y vais pour jouer le jeu, j'y vais pas pour faire le chieur. Je trouve que ça vaut pas la peine. J'ai souvenir d'avoir assisté à une dédicace quand j'avais, je sais pas, 12 ans, dans une librairie à Genève, et je sais plus qui était là, un dessinateur assez âgé qui était là, et visiblement on avait marre, il était excédé, et à un moment il y a un enfant qui vient, mais tout le monde faisait dédicacer des albums, et à un moment un enfant lui tend une feuille, il prend la feuille, il la chiffonne, il la jette sur le gamin. Et je m'étais dit, c'est idiot de faire ça, parce que au fond, tout le monde retient juste ça de cette dédicace. Alors que le gars, il a bossé pendant 2 heures ou 3 heures à signer, à faire des dessins dans des livres, mais on retient juste qu'il a été désagréable avec quelqu'un. Et je trouve que c'est, si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas le faire. Ça ne nous rapporte rien. Maintenant, on est payé quelque chose quand on le fait, mais on n'a jamais été payé pour des dédicaces. On est juste là pour... on est là pour faire plaisir aux gens, en fait. Au début, on est là pour faire connaître notre travail, mais généralement, là, on attend derrière une table et on espère que quelqu'un vienne. Mais quand on fait des dédicaces et qu'il y a 100 personnes qui sont là, c'est pas les 100 bouquins qu'on va dédicacer qui vont rembourser le fait qu'on soit venu. C'est juste, on est là pour faire plaisir aux gens. Donc faisons-le vraiment ou n'y allons pas. Enfin, je pense qu'on n'est pas obligé. Hein.
Dans l'atelier BD de Zep.
Alors, on disait, on est à Genève, tu n'as jamais quitté cette ville ?
Non.
Est-ce qu'il y a eu un particularisme de la bande dessinée suisse ?
J'aurais du mal à dire maintenant, parce que ça s'est beaucoup développé, mais à l'époque où j'ai commencé, je pense que ce qui était peut-être caractéristique, justement, c'était le fait qu'on était isolé. Il y avait une sensation d'isolement, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'éditeur ici. Il y a eu des tentatives éditoriales, il y en a eu plein. Maintenant, il y en a depuis quand même un certain temps, entre Atrabile, Paquet, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de magazine de bande dessinée non plus. Donc, on n'avait pas cette possibilité d'être rassemblé autour d'un projet. Il y avait beaucoup de fanzines. Donc, on était obligé de s'expatrier pour être publié. Et le fait de faire ça, on le faisait pas tous les jours. On n'allait pas tous les jours à Bruxelles ou tous les jours à Paris montrer ses dessins. Et ça impliquait que peut-être qu'on amenait des projets qui étaient plus solides. C'est-à-dire qu'on avait déjà maturé le truc, on y avait passé. Moi, je suis quand même allé plusieurs fois à Paris et plusieurs fois à Bruxelles avant de faire Titeuf. Mais j'y allais pas très souvent parce que ça coûtait cher, parce que c'était compliqué, c'était loin. Donc... j'y allais, on me disait des trucs, on cassait ce que j'avais fait, ou on m'encourageait sur certains trucs. Après, tout ça maturait, je revenais 6 mois après avec un projet. Je pense que si j'avais habité à Bruxelles ou à Paris, je serais allé tous les 2 jours à la rédaction de Spirou ou de Pilote ou de Metal pour montrer mes pages. Parce que j'étais très impatient, j'avais envie de publier, donc on m'aurait dit « fais un polar », je serais rentré chez moi, j'aurais fait une page de polar, je serais revenu le lendemain. Tandis que là, on prend le temps de développer des projets. Et ça a donné, je pense, quand même une espèce les auteurs suisses ont tous un truc assez varié. On n'est pas, on peut pas dire qu'il y a une école entre Derib, Causet, Seppi, Abègre,
Frédéric Peters,
Bertsch, Bertschi, Mixeromix... ou moi, on est quand même dans des choses assez différentes.
Une petite confrérie malgré tout, vous voyez ?
Ouais, bien sûr. Ouais,
il y a des festivals souvent. Évidemment en Suisse, bien sûr.
Mais des fois on se voit plus en festival ailleurs que ici. Alors après il y a ceux qui ont les copains plus proches, ceux qui sont de ma génération avec qui on se voit en dehors. Et autrement, on a toujours du plaisir à se voir avec Causet ou avec Derib. Parce que voilà, c'est on parle boutique quoi.
Est-ce que quelqu'un comme Derib, qui est là depuis très longtemps, qui est vraiment un des grands classiques de la bande dessinée franco-belge et donc suisse, est-ce que ça fait partie des gens qui t'ont donné justement envie de faire de la bande dessinée quand tu t'es peut-être aperçu que Derib était suisse comme toi, tu t'es dit tiens, il y a peut-être un truc là.
Ouais, et lui était assez... assez présent dans les médias. Quand j'étais gamin, dans les années 70, il y avait souvent des émissions radio ou télévision consacrées à la BD. Et Derib était souvent l'auteur invité, évidemment. Et comme il connaissait tous les Belges connus, il invitait Franquin, il invitait Walteri, il invitait Roba, enfin il invitait ses copains en fait qui venaient volontiers participer aux émissions. Et donc c'était une espèce de figure, on savait tiens il y a un gars qui est en Suisse et qui fait de la bande dessinée et qui fait un truc en plus qui est hyper connu au-delà de la Suisse. Donc je pense qu'on est les gens de ma génération, on a tous envoyé nos dessins à Derib, on est tous allés le voir et il était très généreux pour ça.
Et t'as fait ça?
Ouais, bien sûr. Je lui ai envoyé plusieurs fois mes dessins. Il m'a toujours répondu. Et après, quand j'ai eu, je sais pas, 14 ans ou 15 ans, je suis allé le voir. Il m'a consacré une heure à regarder mes dessins. Et c'est un truc qui m'a hyper encouragé. Et j'ai toujours gardé cette idée. Quand des enfants me proposent, me demandent rendez-vous, j'essaie toujours de bloquer un petit moment. Si je vois qu'il y a vraiment un truc, qu'il y a vraiment quelque chose, de voir les jeunes dessinateurs, parce que je trouve que c'est... des fois, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, mais juste de venir dans l'atelier de quelqu'un qui fait ce métier, dont on a lu les bouquins, je trouve que c'est assez encourageant.
Je ne sais plus, il y avait une émission sur le web que j'avais vue qui t'était consacrée, où on voyait, d'ailleurs, ça a d'ailleurs été exposé, tes toutes premières BD, celles que tu faisais quand tu étais enfant, c'était toujours assez marrant à voir, parce que toi, tu animais Goldorak, si je me souviens bien.
Ah ouais, j'ai dessiné du Goldorak, ouais.
Tu t'es mis assez rapidement à faire de la BD, vers quel âge ?
Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours dessiné des petites séquences avec des bulles. Je demandais à ma sœur d'écrire dans les bulles quand je ne savais pas encore écrire. Donc non, j'ai toujours fait de la bande dessinée. Après, assez vite, j'ai inventé mes personnages. J'aimais bien l'idée de créer des personnages. Mais j'ai dessiné quelquefois... par exemple, j'étais fan de « Il était une fois l'homme ». Donc j'ai dessiné des BD de « Il était une fois l'homme ». J'ai dessiné des BD de Goldorak, parce que Goldorak, c'était notre idole. Et il n'y avait pas de bande dessinée Goldorak pendant longtemps.
Sans lire de manga, hein, c'est parce que ça passait à la télé, quoi.
Ça passait à la télé, mais il y avait un magazine Goldorak, mais qui arrivait peut-être un an ou deux ans après. Et donc, dans la pleine période où j'étais fan de ça, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais le faire. Donc, j'ai dessiné des pages de Goldorak au crayon de couleur, qui sont absolument atroces.
Non, c'est rigolo.
Et j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Mais assez vite, j'ai inventé mes personnages. Ça m'amusait d'inventer des personnages et d'inventer des histoires.
C'était quoi?
J'étais toujours celui qui racontait les histoires, qui inventait les histoires pour la pièce de théâtre, pour le... Donc j'adorais ça, j'adorais inventer des histoires et dessiner. Donc,
c'était quoi tes personnages? C'était déjà des enfants?
C'était des personnages animaliers. Au début, c'était très influencé par Disney, puis par Pif aussi, je disais Pif Gadget. Donc c'était des personnages animaliers, un peu entre gros nez et animaliers, comme ça. Après, petit à petit, c'est devenu des humains, mais jamais des enfants en fait. Le premier personnage enfantin que j'ai fait, c'est Titeuf.
Quand tu regardes tes dessins aujourd'hui, justement, tu parlais de Disney, de Carbanks, que tu cites assez régulièrement, mais c'est quoi, c'est Roba aussi, c'est ce dessin assez rond, c'est là qu'on voit tes influences?
Ouais, c'est plus Franquin que Roba, j'étais pas un grand lecteur de Boule et Bill, parce que j'étais pas...
Pourtant, ton dessin est moins nerveux, ou moins fouillé que celui de Franquin.
Ouais, c'était plus... mais j'aimais bien la ligne claire, j'aimais bien les choses assez épurées, j'aimais beaucoup Hergé. J'étais ultra fan de Gottlieb, mais en fait quand j'ai commencé à être publié dans des fanzines, je connaissais peu la bande dessinée. En fait, je connaissais la bande dessinée que je lisais comme enfant, et puis quand je suis entré aux Arts Déco, j'ai découvert toute une bande dessinée plus underground que je connaissais pas: Shelton, Crumb, Will Eisner. La bande dessinée américaine en général, la vieille bande dessinée française, Rodolphe Töpffer, que je connaissais pas non plus. Donc tout à coup, mon panel s'est agrandi, et quand je relis les bandes dessinées que je faisais à cette époque-là, même Victor, qui était ma première bande dessinée publiée, je vois chaque page que je vois de Victor, je sais ce que j'étais en train de lire à ce moment-là, parce que je vois qu'il y a des emprunts, pour pas dire du pillage, à plein de trucs que j'étais en train de lire à ce moment-là. Donc tout à coup, il y a une page où les décors sont complètement influencé par Crazy Cat, un paysage surréaliste avec des nuages qui sont entre des nuages, des espèces de concombres volants. Après, il y a tout à coup des pages où le décor est beaucoup plus réaliste parce que je lisais Un bail avec Dieu de Will Eisner, donc j'essayais de faire des ambiances comme ça au pinceau. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et c'est cool, je trouve aussi, hein, ce moment-là où on essaye, on tente plein de trucs. C'est génial. C'est génial de ne pas se dire « il faut que je trouve mon style et il faut que je fige le truc maintenant » parce que tant qu'on fait ça, c'est que c'est pas mûr. Donc
et pourtant, quand on revoit des planches de Victor aujourd'hui, donc ta première BD, la première que tu as publiée, on sait tout de suite que c'est du Zep.
Ouais, je pense qu'il y avait déjà des trucs qui étaient à moi. Il y avait déjà quelques trucs qui étaient à moi. Après, moi, quand je les regarde, je vois tout ce qui est emprunté partout. J'ai l'impression qu'il ne reste pas grand-chose, hein. Grand-chose qui soit personnel. Mais au fond, le style personnel, c'est le mélange de toutes nos influences. Donc, c'est pour ça que tout ce débat qui est actuellement sur l'AI, il est intéressant parce qu'au fond, l'AI, elle fait ce qu'on fait nous, mais de manière plus vaste, parce qu'elle analyse des millions, des milliards d'images en quelques secondes. Mais nous, on a digéré peut-être des dizaines ou des centaines d'albums de bande dessinée en quelques années.
On sait de l'intelligence, nous, mais elle n'est pas artificielle.
Elle est artificielle,
elle est réelle.
Donc elle est un peu plus laborieuse. Mais voilà, moi, je sais que ma manière de dessiner les chaussures, elle venait de Chaland. Ma manière de faire tel truc, j'avais piqué à Franck P. Ce qui m'avait fasciné chez Franquin, je l'avais mis là. J'avais plein de trucs que j'aimais chez René Haussmann. Alors après, quand je disais aux gens, mes influences cette semaine, c'est René Haussmann et Crumb, il me disait mais comment tu fais un mélange entre les deux, je vois pas trop le truc. Puis je montrais ce que je faisais, il me disait ah ben, effectivement je vois pas du tout là. Je vois ni l'un ni l'autre là-dedans. Et le fait de mélanger des choses qui sont assez parfois antagonistes même, fait que malgré soi on développe un style.
Tu crois qu'il faut lire beaucoup de BD pour faire de la BD? Il faut en tout cas vraiment aimer ça,
ouais.
Comme lecteur aussi?
Bien sûr, ouais. Je pense qu'il faut en regarder beaucoup. Généralement si on fait de la bande dessinée c'est qu'on aime ça. Et puis, plus on est curieux. Moi, c'est le premier conseil que je donne aux tout jeunes dessinateurs que je rencontre, aux dessinatrices que je rencontre, c'est soyez curieux, allez voir d'autres trucs. Et s'ils font quelque chose, je me dis, tiens, ça me fait penser à ça. Je leur montre un bouquin, voire je leur donne un bouquin en disant, prends ça, regarde. Mais ça ne marche pas vraiment parce qu'il faut qu'on trouve ce qui nous intéresse, nous. Et c'est après que ça devient intéressant. Moi, il y a des dessinateurs comme ça que je suis depuis qu'ils ont 8 ans ou 10 ans et qui ont maintenant 30 ans pour certains. Donc, ils viennent me montrer leurs dessins. Alors, entre-temps, ils ont été publiés, ils ont sorti des premiers albums. Et c'est génial, ce truc où on voit tout à coup que souvent, ils venaient puis ils dessinaient un peu à la Titeuf. Hein. Ils essayaient de dessiner un peu comme moi. Je trouvais ça pas très intéressant, mais je disais, mais c'est pas une bonne piste parce que c'est déjà occupé. J'ai pas besoin de quelqu'un qui dessine comme moi, donc il faut que tu développes toi. Mais ça se fait avec la curiosité, c'est-à-dire qu'après, tout à coup, ils ont découvert, quand ils deviennent adolescents, ils ont découvert Margerin, ou ils ont découvert la SF, ou ils ont découvert des trucs beaucoup plus dark, ou souvent effectivement tout l'univers du manga. Et c'est le mélange de tout ça qui va faire que ça devient unique et que ça ressemblera à personne d'autre.
Qui, par exemple, t'as découvert à 8 ans et aujourd'hui est devenu professionnel?
Il y a un dessinateur qui s'appelle Fabien Ménor, ici, qui était, que j'ai vu la première fois, je pense qu'il était avec sa maman, il avait 9 ans, là maintenant il est en train de faire son troisième album. Les autres sont sur des projets, il y a Elmax, il y a Maxime, et c'est marrant de voir leur projet évoluer, des fois vers des choses qui sont très 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 loin de ce pourquoi ils sont venus me voir, c'est-à-dire que Maxime, en l'occurrence, c'est un dessinateur qui fait des choses très réalistes, très dures, avec beaucoup de sexe dedans, qui a des résidences, mais des choses très arty, magnifiques, avec un dessin superbe, vraiment loin de Titeuf. Alors quand il est venu me voir les premières fois, lui, je pense que son rêve, c'était d'entrer dans Tcho. aujourd'hui, Tcho, de toute façon, n'existe plus, mais c'est marrant de voir là où leur curiosité et leur personnalité va les amener graphiquement. Et c'est ça qui est super. S'ils continuent à dessiner comme moi, je trouverais que ce serait pas très intéressant.
Ah, maintenant que tu es un peu un daron de la BD, il y a ce côté transmission que tu aimes bien.
Oui, puis transmission, je transmets un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est comment ça va se mélanger avec eux, avec leur personnalité, et que ça va devenir quelque chose qui est complètement imprévisible. J'ai jamais eu envie de former des gens pour faire un atelier, pour avoir des assistants. J'ai toujours eu envie, même les rares fois, Fabien, en l'occurrence, lui, il est venu faire un stage ici, c'est le seul qui est venu travailler dans mon atelier avec moi. Mais il était tout jeune, je sais pas, il avait 13 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans, mais j'avais pas envie qu'il devienne mon clone, j'avais envie qu'il devienne lui.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Zep, ton pseudo, on sait d'où ça vient, de Led Zeppelin, tu l'as souvent raconté. Et c'est venu quand, en revanche, c'est quand la première fois que tu as signé Zep?
C'est au lycée, j'avais 12 ans, je pense. Et je faisais, on faisait un petit journal voilà, qu'on avait appelé Zep, à cause de Led Zeppelin. Et puis,
12 ans, fan de Led Zeppelin, ça envoyait. Hein.
Ouais, mais je sais pas, c'est l'arrivée au lycée, en fait. Tout à coup, on écoutait plein de musique, on écoutait du rock, ça nous semblait être incroyable. Et c'était incroyable, d'ailleurs, Led Zeppelin. Et puis, assez vite, j'étais tout seul à faire ce journal. J'ai pris cette habitude de signer Zep. Parce que les gens m'appelaient Zep, en fait. Les gens m'appelaient Zep à cause du journal. Et donc, je signais Zep. Mais c'est pas tellement prémédité. Je me suis pas dit, tiens, je vais m'appeler comme ça et ça va être mon pseudonyme pour toute ma vie.
Bah,
sinon, j'aurais vachement plus réfléchi à ça. Parce que c'est vrai que quand je fais des projets plus réalistes, avec des projets plus graves, c'est toujours bizarre d'avoir un pseudonyme qui sonne un peu comme un gag. Ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs de BD. Je trouve qu'on a des pseudos qui font très pseudo. Dédé, Maxou, Bilou. C'est un peu couillon quand on fait des choses vachement sérieuses. Mais voilà, c'est on choisit pas, quoi.
Mais sur tes albums plus sérieux, les one-shots, tu pourrais pas en signer un Philippe Chapuis? Ou c'est question de marketing? Zep est quand même... le nom Zep est ultra connu.
Alors ça, pour l'éditeur, je pense qu'il adorerait pas que je change de nom. Au fond, pour moi, tout ça participe au même travail. C'est mon nom de dessinateur de BD. Quand je fais une histoire d'homme, c'est pas différent de quand je fais mon carnet intime chez Gallimard ou mon carnet intime, les arbres que je dessine dedans, ils sont comme ceux que je dessine dans Titeuf. Enfin, tout ça est lié. Donc je saurais pas trop où couper, en fait. Tu vois, si j'avais vraiment deux trucs complètement différents. Mais en fait, il y a plein de choses entre deux. Il y a des projets parfois. Un album comme Découpé en tranches était un album avec mon dessin humoristique, mais avec un propos plus proche, un peu plus grave, peut-être plus proche de ce genre d'histoire. Après, j'ai fait mon blog sur Le Monde où je mélangeais un peu tout ça, qui est sorti en bouquin chez Delcourt sous What a Wonderful World. Donc, ça aurait été bizarre de dire, tiens, cette page, c'est Zep, cette page, c'est Philippe Chapuis, au fond, c'est Zep, et puis voilà.
Quand je parle de... Il y a une différence hein, sur les one-shots, sur le dessin, parce que quand tu parles de Découpé en tranches, par exemple, c'est vraiment le dessin de Zep... De Titeuf, hein.
Oui,
on retrouve le dessin de Titeuf, c'est pas le cas du tout des albums réalistes que tu as fait ces dernières années.
Pour moi, c'est pas si différent que ça, au fond. Parce que dans Découpé en tranches, j'utilise un dessin d'observation, c'est-à-dire que je me dessine moi en personnage humoristique, comme mon vocabulaire de Titeuf, mais tout ce que je dessine dedans, c'est observé. Alors, essentiellement, ça se passe dans mon... c'est un truc autour de mon nombril, donc je dessine ma maison, mon salon, mon atelier, ma guitare, mais tout est observé. Et mon dessin réaliste, c'est ça, c'est un dessin d'observation, sauf qu'à un moment... Je vais aussi observer les personnages et au lieu de dessiner mes personnages avec mes automatismes de dessin humoristique, je vais demander à des gens de poser pour moi et les dessiner.
Alors revenons dans le passé et à ce personnage que tu as cité tout à l'heure, Victor. Donc lui, c'était le premier des premiers, qui est un personnage, alors si je me souviens bien, qui travaille dans une imprimerie, qui a une sorte un peu de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de gaffe, il travaille pas beaucoup, en gros.
Ouais, tout à fait.
Et c'est Spirou qui l'a publié en premier, il y avait un fanzine peut-être avant.
Non, alors d'abord c'était publié dans un journal féminin ici, qui s'appelait Femme d'aujourd'hui, ou La Femme d'aujourd'hui, je sais plus. Et j'ai fait pas mal de pages, presque 80 pages, je faisais une page hebdomadaire dans ce journal. J'avais la dernière page, ce qui était hyper cool. J'avais la quatrième de couverture du magazine, donc plein de gens lisaient Victor. Il y a un album qui est sorti de ces pages-là, chez Kesselring, qui était un éditeur suisse. J'avais été voir Spirou avec ça, en fait, avec ce dossier de... J'avais pas encore fini les 80, mais j'avais un gros, gros dossier de pages, une bonne cinquantaine. Et j'étais engagé là-dessus, et ils ont dit, ouais, c'est intéressant, mais on aimerait faire un truc un peu comme Gaston, c'est-à-dire où les gens s'habituent à ton personnage. Donc Victor est arrivé... Et c'était un héros sans emploi.
C'est embêtant d'arriver chez Spirou avec un héros sans emploi.
Il y a un
précédent.
Mais en fait, il y avait un précédent, mais c'était aussi une période où il y avait énormément de chômage. Tu vois, on était dans la fin des années 80, une espèce de crise de chômage en Europe. Donc le chômage était un sujet présent. Et moi, j'avais fait pas mal d'histoires là autour. Il m'a dit, c'est bien, fais un truc là-dessus. Et je crois qu'ils étaient un peu contents de dire, voilà, on a un héros sans emploi qui montre un peu la réalité. Et donc, Victor faisait les petites annonces, allait se présenter dans des agences d'emploi, trouver des boulots temporaires dont il était viré. Et pendant quelques mois, c'était des strips, des doubles strips, qui montraient un peu ça, jusqu'à ce qu'il soit engagé dans l'imprimerie. Et après, on a démarré sur ces gags d'imprimerie qui intéressaient déjà beaucoup moins Spirou, j'ai l'impression, parce que là, on était dans un truc beaucoup plus classique de bande dessinée à papa, en fait. Graphiquement, il y avait quelque chose qui détonnait, parce qu'en plus, c'était de la couleur directe, ce qui n'était pas très fréquent dans Spirou. Mais les gags étaient très, très classique, donc ça les intéressait moins, et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de volonté de faire un album avec ça.
Alors peut-être que Spirou a maintenant des regrets de ne pas t'avoir gardé avec le personnage suivant. Comment il est né, ce Titeuf ? Alors, La
première fois que j'ai dessiné Titeuf, c'était pour un autre projet. J'avais trouvé ce petit bonhomme qui avait une mèche sur la tête, et c'était un trio de gamins qui faisaient un groupe de rock. Voilà, moi, j'étais très dans la BD rock. Donc, je faisais beaucoup d'histoires là autour, d'histoires de festivals. J'étais souvent engagé dans les festivals de musique pour aller dessiner, pour le journal qui se faisait pendant la nuit, qui était distribué le lendemain sur le terrain. J'adorais ce truc de presse et d'être dans une ambiance de festival de musique. Donc, j'avais fait un petit truc de trio rock. J'ai fait quelques gags. C'était pas terrible. Et j'avais envoyé ça à des journaux. En fait, chaque semaine, je faisais au moins un ou deux nouveaux projets de BD que j'envoyais à Spirou, à Fuite Glaciale, aux Humano, des fois à Dargo, si le projet me semblait pas mal. J'envoyais à tous les gens chez qui j'avais un contact, chez qui j'avais déjà publié des trucs. Et j'essayais de trouver une idée. Et puis bon, jamais rien n'était pris. Parfois, Spirou me disait « Ah, ça, c'est cool, c'est pas mal, vas-y. » Ou Fluide disait « Ah, on aime bien ça. » Alors, je faisais des pages. Puis quand je voyais les pages, il me disait « Ouais, non, tout compte fait, non, on prend pas. » Donc, je me rendais compte que j'étais d'une espèce d'impasse parce que la bande dessinée que je proposais n'intéressait pas les éditeurs. C'est, en même temps, c'est la bande dessinée que j'avais envie de faire, moi. Donc, je me suis dit « Bah, peut-être que je me suis trompé et qu'il faut que je laisse tomber cette idée de devenir auteur de BD. » Moi, je gagnais un tout petit peu ma vie ici en faisant du dessin dans la presse, en faisant des affiches. Donc, je faisais déjà mon métier de dessinateur et j'avais envie de faire de la BD, mais la BD que j'aimais, j'avais pas envie de faire une BD qui me plaisait pas. Et en envoyant mes dossiers à gauche, à droite, des fois, on me proposait des scénarios. On me proposait, Sergio Salma m'avait proposé des scénarios pour Spirou, les Humano m'avaient proposé un scénario réaliste de Serge Letendre qu'ils avaient en catalogue. Mais c'était pas, je me sentais pas de faire ces trucs, c'était pas la BD que j'aimais, que je voulais faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, tant pis, je laisse peut-être de côté cette idée de devenir un auteur de BD, peut-être que je suis nul comme auteur de BD. Je vais faire de la BD que pour moi, dans un carnet, et puis je vais vivre en faisant que du dessin pour les maisons de quartier, les centres de loisirs, enfin tout ce que je faisais jusque-là, quoi, qui me faisait la BD, de toute façon, ne me faisait pas du tout vivre. Et puis un jour, j'étais à ma fenêtre, j'avais mon atelier qui me donnait dans une cour d'école, et de voir les enfants jouer pendant la récré, mon enfance m'est revenue d'un coup, et je me suis dit, faut que je note tout ça. Alors j'ai commencé à noter plein de souvenirs d'enfance, les trucs qu'on se disait, les insultes, l'incompréhension par rapport aux parents, la trouille par rapport aux filles. J'ai dessiné l'école qui était sous mes fenêtres, mais autour j'ai dessiné mon quartier d'enfance qui était une cité. J'ai dessiné mes copains, Manu, Hugo, François, Nadia, qui était la fille dont on était tous amoureux. Puis au moment de me dessiner moi, gamin, je me suis dit, si je me dessine moi, je vais vite coincer à raconter 3 ou 4 souvenirs, et puis après j'aurai plus rien à dire. Peut-être que c'est mieux de mettre un autre « je » qui me permettra d'être plus libre dans ma narration. Et là, j'avais sur ma table ce projet avec ce petit bonhomme avec une mèche qui jouait dans ce groupe de musique. Je dis « Ah, il est pas mal, il a une tête d'œuf ». Je l'ai mis et les autres disent « Tchou, Titeuf ». Et voilà. Et
tête d'œuf, Titeuf, c'est tête d'œuf.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est parti, ça a été complètement libérateur parce que tout à coup, je pouvais être dans l'enfance, mais sans être dans un truc autobiographique.
Et t'as commencé tout de suite à faire des planches ?
Ouais, j'ai fait des planches sous forme de storyboard, j'en ai fait en 2 jours, j'ai dû en faire une 20aine, donc c'était vraiment hyper libéré, et j'étais là, ouais, c'est cool, c'est bien, j'en ai fait une au net quand même comme ça pour voir, et puis je me suis dit, c'est, en fait, le fait d'être libre et de ne pas me dire je fais ça pour Fluide Glaciale ou pour Spirou, dans le langage c'était plus libre, dans les thématiques c'était plus libre, parce que ça parlait aussi de sexualité, de leur perception du sida, qui à l'époque était très présent médiatiquement, très présent, hélas, aussi dans des questions de santé. J'ai envoyé mes pages tout de suite. J'ai dit, c'est génial, c'est super, j'ai trouvé mon truc. J'ai envoyé à Fluid, j'ai envoyé à Spirou, j'ai envoyé aux Humano, j'ai envoyé à Dargo, j'ai envoyé à tout le monde en me disant, c'est génial, ça va être super. J'ai envoyé à Vidal et tout. Et tout le monde m'a dit non, en fait. Tout le monde m'a dit non, c'est nul.
Ah, c'est pas une légende, hein. C'est un peu comme Harry Potter et J.K. Rowling. Tout le monde trouve
c'est
le...
C'est souvent comme ça, en fait. Le truc, Spirou, il m'avait dit, ben non, parce qu'on vient de commencer le petit Spirou avec Tom et Jean, il va pas prendre un autre gamin qui est un peu garnement comme ça, ça fait doublon. Tout le monde m'a dit autre chose de négatif, si tu veux. Pas tout
donc
le monde m'a dit la
aujourd'hui,
même chose.
Tous ces éditeurs qui, voilà. Qui se mangent les doigts, sauf Glénat, évidemment.
Ah, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. Un éditeur, il passe beaucoup plus de temps à dire non qu'à dire oui. Donc, ouais, je me suis retrouvé avec tout ça en me disant, merde, moi, personne ne le veut, tant pis. Et j'avais des copains qui faisaient un fanzine ici à Genève qui s'appelait Sauf qui peut, auquel je participais depuis le premier numéro. Puis je leur ai montré ça, j'aurais dit, ouais, j'ai fait ça, ça vous dit. Et eux ont adoré, ils m'ont dit, ah, c'est génial, on le passe. Donc ils ont passé une page, deux pages, trois pages. Et ils étaient tout contents, ils me disaient, ah, ça marche bien, tout le monde aime bien, mais tout le monde aime bien le lectorat d'un fanzine. Donc on avait 100 lecteurs, tu vois. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un album? Et moi, j'ai dit, non, je vais pas faire un album. J'avais déjà fait un album avec eux et je savais que c'était sympa, mais enfin, c'est un album qui était vendu dans trois librairies et voilà, moi j'avais envie, si je faisais un album, quand même de pouvoir un jour manger au restaurant. Donc j'aurais dit non, je vais pas faire d'album avec vous, tant pis, je veux pas faire d'album, je fais ça comme ça, on verra bien. Et donc j'ai continué à passer mes pages dans Sauf qui peut, et puis après quelques numéros, c'est Jean-Claude Camano qui était directeur éditorial chez Glénat, qui est tombé sur un numéro de fanzine et qui m'a appelé.
Et lui avait du pif, donc.
Et lui, il est tombé là-dessus et il s'est dit, là, je tiens un truc, c'est ce que je cherche. Voilà. C'est la bande dessinée des années 90, c'est ce que je veux. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai envie de faire un album avec vous, j'ai vu ça, c'est pas mal, venez me voir à Paris. Et moi, j'étais hyper désabusé par rapport à ça. J'en avais marre d'aller à Paris, c'était quand même loin, c'était cher, et j'avais pas un rond. Pour voir des gens qui m'avaient dit c'est super, venez me voir, et au moment où j'arrivais 10 jours après, ils me disaient en fait non, ça ne nous intéresse plus, rentrez chez vous. Donc je leur avais dit écoutez, moi je ne viens pas à Paris, mais je vous envoie mes pages, puis si ça vous plaît, envoyez-moi un contrat. En me disant de toute façon, il va me dire non, parce que tout le monde m'avait dit non. Une fois qu'il va tout lire, il va se rendre compte, vu que tout le monde a dit non, il va aussi voir que c'est non. Et il m'a rappelé, il m'a dit écoutez, j'ai vu vos pages, je trouve ça vachement bien, j'ai envie de faire un album avec vous, mais j'ai besoin de vous rencontrer, qu'on discute, qu'on voit comment on va travailler ensemble. Donc je suis quand même allé à Paris, un peu malgré moi, et puis on s'est rencontrés. Il y a eu aussi une espèce d'osmose qui s'est passée. C'était quelqu'un qui était assez impressionnant, Jean-Claude Camano. C'était un éditeur qui faisait peur à plein de gens, qui pouvait être assez sévère comme ça, qui était très parisien quand même. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il voit dans mon projet que les autres n'ont pas vu, ou qu'est-ce qu'il n'a pas vu que tous les autres ont vu? Plutôt, je me disais plutôt ça, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? À quel moment il va ouvrir ses yeux et se dire, non, en fait, c'est nul, je me suis trompé. Et j'ai su après que lui s'est beaucoup battu, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup impliqué, il a défendu Titeuf au sein de Glénat, qui ne voyait pas ça avec beaucoup d'intérêt, aussi parce que Titeuf était complètement anachronique. C'était le seul éditeur à qui je n'avais pas envoyé. Lombard, je n'avais pas envoyé, et Glénat. Je me disais, Glénat, collection vécue, qu'est-ce que je vais envoyer Titeuf chez eux? Et lui, il m'a dit, non, vraiment, c'est bien, ça m'intéresse, je veux le faire. Donc il m'a encouragé tout le long, tout en se battant chez Glénat pour imposer le projet. Et jusqu'à la sortie du premier album, je me rappelle que je faisais des cauchemars, où mon cauchemar récurrent, c'était soit il me rappelait puis il me disait non, en fait, je me suis trompé, excusez-moi, soit le facteur sonnait, il me dit voilà, j'ai un paquet pour vous, et j'ouvrais le paquet, et c'était la couverture de mon album de Titeuf, mais dedans, c'était d'autres pages. C'était quelqu'un, ils avaient mis le bouquin de quelqu'un d'autre, parce qu'ils s'étaient rendu compte que mes pages étaient nulles. Donc jusqu'à la sortie du 1, j'étais assez tendu, mais en même temps, j'ai continué à avancer, donc j'avais fait encore, je sais pas, j'avais dû dessiner en storyboard encore une centaine de pages. Donc j'étais prêt déjà pour 2 albums. Et quand le premier est sorti, ils m'ont dit mais attends, on va voir. Je dis ouais, mais on sait quand. Ils disent attends un petit peu. Je rappelais le lendemain. Et là, vous savez, ben non, il faut que t'attendes un peu plus. Et j'ai attendu 2 mois. Et après 2 mois, ils m'ont dit ok, on fait un tome 2 en couleur. Et là, c'était Noël, quoi.
C'est peu d'exemplaires, hein, le premier, le deuxième tome, 7000, je crois. Les deux premiers, c'était vraiment des très petits tirages.
Oui, oui.
Comment ça a démarré à ce niveau-là et à quel album?
En fait, il s'est passé un truc en 2 temps. C'est que moi, j'avais déjà fait trois ou quatre albums de bande dessinée ici, avec des éditeurs suisses, dont un qui avait pas mal marché, qui était un album qui s'appelle Lion Coquillard, qui est un album un peu engagé sur la Suisse sans armée. Et qui avait, on est démocratie directe, donc on vote tout le temps, et on avait voté pour abolir ou non notre armée. Et moi, j'étais très, très pour cette votation. J'avais fait toutes les affiches, j'avais fait plein de choses dans ce cadre-là. J'avais une vingtaine d'années. Et j'avais fait, un an après la votation, un petit album de fiction qui disait la votation. Donc, ça n'avait pas passé. On a toujours une armée, mais il y avait eu 46% de oui, ce qui était énorme. Et j'avais fait un petit truc en disant, bah, la Suisse est démilitarisée. Toute la Suisse, non. Et c'était des pages de garde comme Astérix où on voyait la Suisse avec une loupe et il y avait juste une maison où un officier refusait la suppression de l'armée et continuait à vivre en uniforme. Et donc j'avais fait ce petit album de fiction qui était un album juste d'humour, mais qui en arrière-fond disait un peu ce qu'était l'armée, peut-être soulignait son côté absurde dans un pays qui est neutre depuis 1000 ans. Et cet album a eu un petit succès ici, et en tout cas un succès auprès des médias. Ce qui fait que quand le premier Titeuf est sorti, j'étais l'auteur de Lion Coquillard qui sortait un album chez un éditeur français. Donc ça avait un peu de panache. Et j'ai eu droit à une belle couverture médiatique. J'étais invité à la télévision, ce qui est impensable pour une sortie aussi confidentielle. Et donc Titeuf a tout de suite eu un public. Ici, il y a tout de suite eu du monde. Et je me retrouvais en dédicace avec... Il y avait des fans de Titeuf. J'allais en librairie, j'avais 50 personnes pour le tome 1.
Et ça te surprenait?
Ça a été très vite. En fait, la première dédicace, j'avais peut-être 10 personnes. Et les gens se faisaient dédicacer, ils lisaient le bouquin dans la file d'attente. Et quand ils arrivaient, ils disaient « Ah, je vais en prendre deux, puis je vais en offrir un, machin. » Et le lendemain, je refaisais une dédicace et j'avais 20 personnes. Et donc, le truc a monté. Et en France, pas du tout, parce qu'en France, c'était une nouveauté d'un auteur inconnu. Donc, j'ai fait des festivals, j'ai fait tout le parcours du combattant d'un jeune auteur. Ce qui fait que je pense que quand le tome 2 est sorti, on a vendu 95% du tirage en Suisse et 5% du tirage en France. Ce qui est hallucinant, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse en termes de proportion, parce qu'on est quand même un pays beaucoup plus petit. Et ça a été comme ça assez longtemps, c'est-à-dire que la France est montée doucement, mais je sais qu'au tome 4, je crois encore, c'était 50% du tirage en France, 50% du tirage en Suisse. Et donc la Suisse a sauvé Titeuf parce que les éditions Glénat disaient « Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête, parce que ça marche pas super. » Ils disaient « Attends, ça marche pas super, mais en Suisse, on vend l'équivalent de... On vend plus que notre best-seller. » Je vendais autant que la quête de l'oiseau du temps en Suisse. Par contre, en France, pas du tout. Donc, c'était assez rigolo, ce truc. Et comme ça montait quand même doucement et que la proportion changeait, ça a donné du crédit à Titeuf. Et à un moment, ça a décroché en France, mais ça doit être au tome 4. Au tome 4, donc il y a quand même 4 albums qui sortent où c'est encore très, très confidentiel en France.
Là, c'est quasiment presque miraculeux. Ça arrive à très peu d'auteurs, ce qui t'est arrivé avec Titeuf. C'est-à-dire quelque chose qui atteint des choses stratosphériques ou une bande dessinée qui sort complètement du cadre des lecteurs de bande dessinée pour finalement toucher un public immense. Il n'y a pas aujourd'hui encore, il n'y a pas un supermarché en France où on ne trouve pas un Titeuf à vendre dans le rayon bouquin. Titeuf reste encore un phénomène. Est-ce que tu t'apprécies d'autant plus ce succès invraisemblable que, comme tu disais tout à l'heure, tu en as quand même vraiment chié avant d'en arriver là?
J'en ai pas chié très longtemps, Moi j'ai beaucoup de chance quand même, mais j'ai trouvé que c'était interminable, si tu veux, parce que moi j'étais extrêmement impatient, et puis pendant très longtemps, je trouvais que les choses allaient pas vite, quoi. J'étais là, mais pourquoi on fait pas ça, enfin tu vois, le projet de faire un magazine comme Tcho, je l'avais presque au deuxième album, enfin moi j'avais envie de faire plein de trucs avec Titeuf, mais sauf que personne d'autre que moi avait envie, donc mon éditeur, Kamano, lui il y croyait, mais il me disait, attends, parce qu'il faut voir. Pour le moment, ce que tu me racontes, tout le monde s'en fout. Personne n'a envie de faire ça. Je disais, ouais, mais en Suisse, il y a des gens qui... Il me dit, ouais, mais en Suisse, mais il faut qu'il se passe un truc en France. Donc j'ai fait les festivals, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait toutes sortes de déclinaisons. Mais il y a eu assez vite une petite communauté de fans de Titeuf qui défendaient des libraires, des organisateurs de festivals qui m'invitaient, même si je faisais venir 3 personnes. Mais eux aimaient Titeuf. Il y avait la personne qui s'occupait des droits dérivés chez Glénat, qui avait vendu une licence Titeuf, mais ça devait être au troisième album, donc Titeuf en France c'était inexistant, à Hallmark, qui était la plus grosse licence de cartes postales au monde, qui est une boîte américaine et qui était implantée en France. Et ils faisaient des cartes postales avec Guéluron, Snoopy, ils avaient le Piaf, qui était une de leurs licences à l'époque. Et puis, lui était fou, Titoff, donc il allait le présenter partout en disant « C'est génial, faut que vous lisez ça, c'est drôle, regardez, nanana. » Et puis, il avait réussi à vendre ça à cette boîte américaine, qui évidemment, pour eux, de toute façon, même un succès français, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils avaient pris Titoff, et j'ai commencé à faire des cartes, mais de manière super artisanale. Il me disait « Voilà, on va faire une première série avec 18 cartes postales. » Alors, je faisais 18 petites aquarelles à ma table, et j'amenais ça en papier, il me disait il faut envoyer au Kansas à telle adresse, alors j'envoyais au Kansas, puis hop, il faisait mes cartes postales. Je dis ouais, c'est cool. Il me dit oh, ça a bien marché, on va faire une deuxième série avec 60. Alors je fais 60 petites aquarelles, tout ça parallèlement au bouquin, puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu une licence qui marchait très très bien. Et j'ai dû faire au moins 300 petites illustrations.
Tu veux dire que finalement, c'est la licence à porter la BD habituellement.
Je pense que
c'est plutôt l'inverse.
La licence a aidé, ouais. Parce que Titoff était inconnu en album, en librairie en France. En Suisse, il y avait déjà des corners aux entrées des grandes surfaces avec les bouquins de Titoff. Mais en France, pas du tout. Et c'était marrant parce que cette boîte américaine s'est dit, tiens, il y a un phénomène, c'était un succès de carterie, mais pas de bouquin. Et donc, ils avaient dit, on va vous envoyer une de nos graphistes pour bosser avec vous pendant une semaine pour un peu gérer la série. Et donc, j'avais une graphiste qui bossait avec Charles Schulz, qui s'occupait de la collection de Snoopy, qui était venue à Genève pendant une semaine chez moi pour bosser là-dessus. Et elle était un peu estomaquée parce qu'elle pensait qu'elle allait arriver dans un studio avec plein de gens, des coloristes. Et j'étais tout seul avec ma toute petite table de dessin dans une pièce à faire des aquarelles. Puis elle me disait, mais attends, mais c'est pas possible parce que moi, on m'a mandaté pour que normalement, on prévoit 200 cartes là pendant cette semaine. Je dis, ouais, mais c'est bon, on va trouver 200 idées. Je les fais en storyboard, puis après, je les fais au net. Et ça a été une période où, après, on a fait les agendas Titoff, j'ai eu une figurine Faribol qui était hyper jolie, que j'ai toujours, qui est sortie à un moment où Titoff, c'était vraiment pas un gros succès, mais il y avait un petit groupe de fans, dont j'imagine le sculpteur de Faribol. Et les choses sont passées petit à petit, mais c'est presque effectivement les licences qui ont alimenté le succès des albums.
Dans l'atelier BD de Zep.
Ce qui est intéressant aussi avec Titoff, tu le disais tout à l'heure, il y a d'autres gamins en bande dessinée, que ce soit Bully Bill, Kid Paddle, que ce soit le petit Spirou, etc. L'originalité de Titoff, là où peut-être aussi il avait un label qualité où il était différent des autres, c'est qu'il était plus sociologique, plus inscrit dans son époque. Il parlait de ce dont les BD enfantines ne parlaient pas. Il parlait de sida, tu disais. Mm-hmm. Il parlait de chômage, il parlait de harcèlement scolaire, il parlait de sexualité aussi parfois. C'est ça qui a fait aussi le succès de Titeuf, en dehors du fait que la bonne bouille de Titeuf a été assez rapidement assimilée par les lecteurs.
Je pense qu'il y a de ça, ouais. Et ça, il fallait le tenir parce que, par exemple, par rapport à la carterie, moi, je mettais aussi des cartes parfois qui étaient un peu transgressives comme ça. Ils aimaient pas trop, tu vois, les Américains. Et heureusement, ils lisaient pas les bandes dessinées parce que je pense que ils auraient pas adoré non plus le ton des bandes dessinées. Mais pour moi, Titoff s'adressait à un public de gens de mon âge. C'était une espèce de revisite de l'enfance.
Tu veux dire qu'il y a une incompréhension par rapport à Titoff? C'est-à-dire que tu as fait Titoff pour des adultes et c'est des enfants qui l'ont adopté?
Ouais, exactement, ouais. Enfin, une incompréhension, non, parce que le public adulte est resté, tu vois. J'ai pas perdu le public adulte. Mais le public enfant, je l'avais pas prémédité. Parce que je pensais que cette lecture de l'enfance, elle avait un côté... Ça, je l'ai compris plus tard, mais il y a quelque chose d'assez dur dans cette période de l'enfance. Et moi, j'avais envie de traduire ça dans la bande dessinée de manière le plus réaliste possible. Je trouvais que l'humour, c'était un manuel de survie pour l'enfance. Mais que l'enfance, c'était pas une période formidable, innocente et insouciante. Je trouve que c'est une période assez longue, interminable, où moi, personnellement, je me suis pas mal ennuyé à l'école. Enfin, j'avais envie d'être grand pour pouvoir faire autre chose de ma vie que ce qu'on nous propose quand on est enfant. Donc, j'avais envie de raconter tout ça et de raconter tous ces sujets qui étaient aussi des sujets parfois lourds et anxiogènes, parce que j'ai l'impression que c'est ce dont on a besoin de rire. Mais que ce réalisme-là, bah, il était venir assez proche de l'enfance, et que en tant qu'enfant, je pensais pas qu'ils auraient envie de lire ça, ce qui était proche de leur quotidien, sans forcément leur amener de la fantaisie ou du rêve, ce qui est censé faire un peu la bande dessinée dans l'esprit de tout le monde. Et je me suis aperçu par la suite, en rencontrant beaucoup d'auteurs qui ont fait des personnages enfantins, c'est que la plupart du temps, c'est des auteurs qui sont devenus parents eux-mêmes. Et quand ils sont devenus parents, ils ont fait un personnage enfantin parce qu'ils avaient envie de raconter l'enfance, ou en tout cas raconter une enfance, une vision de l'enfance plutôt optimiste, plutôt encourageante à leurs enfants. Donc souvent c'est des choses fantastiques, c'est un enfant qui s'en va dans un monde imaginaire, c'est enfin raconter ce genre de choses. Et dans Titeuf, il n'y a pas ça, parce que moi j'avais pas d'enfant. L'enfance, c'était mes propres souvenirs d'enfance, donc j'étais pas complaisant par rapport à l'enfance. J'avais pas envie d'en faire quelque chose de joyeux. Et quand j'ai vu les enfants qui sont arrivés et qui connaissaient les albums par cœur, qui connaissaient les gags, j'aurais dit, mais ah ouais, vous connaissez Titeuf? Ouais, on adore Titeuf. Qu'est-ce que vous aimez dans Titeuf, c'est quoi? Et alors, c'est difficile, les enfants, de dire pourquoi ils aiment. Dire, ah, moi, j'aime ça, c'est drôle, ça me fait rigoler. Mais je me souviens d'un petit garçon qui devait avoir 9 ans, qui m'avait dit, moi, j'aime bien Titeuf parce qu'il ne nous prend pas pour des débiles. Quand ce petit garçon m'a dit ça, j'étais en train de bosser sur le 3e album. Donc, il était plus question de revenir en arrière ou de changer le monde de Titeuf. Il était là. Et après, chez Glénat, jamais personne m'a dit, il faut que t'enlèves ces thématiques. Parce que Glénat était aussi plutôt un éditeur adulte. Donc, il imaginait pas forcément qu'il reste public enfant. Tout le monde a été surpris. Et Titeuf est devenu un peu le héros des, à l'époque, on faisait le héros des 8-12 ans. Et là, c'est devenu polémique. Et là aussi, on a basculé dans un débat plus, sociologique, qui est sorti du monde. Au début, je parlais qu'à des gens qui étaient des médias de bande dessinée. Puis tout à coup, là, j'ai été invité dans des émissions, alors soit des émissions populaires, soit des émissions plus sociologiques, qui disaient pour ou contre Titeuf, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler de ça à des enfants? Est-ce que c'est bien de parler de sexualité? Le gros truc, c'était de dire, voilà, nous recevons Zep, l'auteur de Titeuf, une bande dessinée qui parle de sexe aux enfants, alors que c'est pas une bande dessinée qui parle de sexe aux enfants, mais dans tous les sujets abordés par Titeuf, ben, il y a aussi ce sujet-là, puisqu'il fait partie des questionnements enfantins. Mais c'était une période assez marrante, parce que ça a permis de soulever plein de questions intéressantes, bien au-delà de Titeuf, de quel est notre propre souvenir de l'enfance, quel est le souvenir de notre propre enfance plutôt. Parce que souvent, en grandissant, on oublie pas mal de choses. Et on a une vision un peu... on s'arrange avec nos souvenirs. Et après, quand on devient soi-même parent, je pense que si j'avais fait Titeuf 10 ans après, en étant moi-même parent, j'aurais pas du tout fait ça. J'aurais fait quelque chose de plus doux, de plus gentil, de plus parce que j'ai pas un caractère, je suis pas un furieux, tu vois, moi je suis plutôt quelqu'un
t'as l'air calme, ça va.
D'assez doux, d'assez calme, je dis pas je vais mettre le feu à la France, mais ça me semblait être juste de le faire comme ça. Et je me suis trouvé au cœur d'une polémique à un moment que j'avais pas du tout prémédité, et cette polémique là aussi elle a participé au succès de Titeuf.
Et c'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs que tu fais le Titeuf les Zizi sexuels, qui est devenu quasiment un traité de sexologie pour l'enfant, en tout cas, qui répond à beaucoup de questions enfantines sur la sexualité, que tu avais fait avec ton ancienne compagne.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est quelques années plus tard. Peut-être le début de ce débat, ça doit être 96.
Du coup, tu as bien assumé le côté complètement. Titeuf parle de sexualité.
Ouais, ouais. Et moi, je trouvais que dans ces débats, tout était intéressant, si tu veux. Parfois, je n'étais même pas invité. Ils invitaient souvent, je ne sais pas, Serge Tisseron, qui est un psychologue, et ils invitaient en face un détracteur de Titeuf ou une responsable d'un comité de parents d'élèves qui voulait faire interdire Titeuf dans son village ou dans sa bibliothèque. Et le débat était intéressant. Je trouvais que, enfin, on est en démocratie, c'est ça qui est intéressant, c'est le débat d'idées, au fond. C'était, on disait pour ou contre, ben moi je suis plutôt pour, évidemment, mais ça m'intéressait de savoir pourquoi les gens étaient contre. Et je trouve que ça montre aussi notre rapport à la mémoire. C'est qu'au fond, on a tous un peu oublié notre enfance. Et moi, je m'en suis rendu compte en faisant Titeuf. J'ai retrouvé mon enfance parce que je me suis mis à dessiner Titeuf. Et que je me suis mis à réexplorer l'enfance, mais objectivement, j'avais oublié, je me souvenais de quelques anecdotes, mais je me souvenais plus vraiment des émotions de cet âge-là.
Ça fait 30 ans que tu fais Titeuf, est-ce que il y a toujours ce fluide de souvenirs d'enfance qui permet d'alimenter Titeuf, même si tu essaies aussi de l'inscrire dans l'époque ou dans les questionnements de l'époque?
Alors, c'est pas des souvenirs, hein, c'est vraiment le rapport à l'enfance, c'est les émotions de l'enfance.
Tu deviens Titeuf quand,
ouais,
tu fais Titeuf.
Je deviens Titeuf, puis je me promène. C'est comme une décorporation, puis je vais me promener, puis je réagis à l'actualité, en fait, au monde actuel. Alors, ça peut être des choses, ça peut aller des marrons qui tombent aux mamans qui promènent des pitbulls parce que leur ado est parti, puis il leur a laissé, aux manifs un mariage pour tous, enfin, toutes sortes de choses. Et comment on réagit en tant qu'enfant qui a une dizaine d'années à ça? Et ça, ouais, c'est assez intact, en fait. C'est même complètement intact. Par contre, mes souvenirs d'enfance, je pense qu'ils sont épuisés depuis longtemps, parce que mon enfance, elle a duré moins longtemps que celle de Titeuf.
Mais il y avait quand même, tu disais, au début de la création de Titeuf, une espèce de flot, comme ça, d'idées.
Ouais.
Presque facile, si je t'écoute sur ce que tu disais tout à l'heure, ça arrivait tout seul, quoi.
Ça me tombait dessus, quoi. J'avais l'impression que j'avais juste à être là et à noter ce qui venait.
Et c'est toujours le cas, aujourd'hui ? Ou c'est parfois
un peu moins, parce que c'est plus difficile, parce que j'en ai déjà fait tellement que beaucoup de choses ont déjà été traitées. Il y a une usure des sujets. Mais en tout cas, le plaisir, il est intact. C'est-à-dire, j'ouvre, je suis Titeuf et je m'amuse et je remplis mes pages de carnet avec des déambulations, des petits bouts de dialogue, des choses. Tout ça vient très naturellement. Je pense que c'est des choses qui sont amassées pendant l'enfance et puis qui restent là et au fond, qui n'avaient plus l'occasion de s'exprimer et de sortir, et tout à coup la porte s'est réouverte. Mais ça a été comme un jaillissement au début, donc j'étais persuadé que ça allait être comme un geyser, tu vois, ça sort et puis après c'est fini, il n'y a plus rien. Donc j'étais aussi vachement inquiet de ça, donc je harcelais Jean-Claude Camano en lui disant il faut qu'on fasse le deuxième album, il faut qu'on fasse le troisième album, il faut, parce que les histoires sont là. Et puis je me suis rendu compte que c'était comme une fontaine qu'on viderait et qui se remplit tout le temps, en fait. Ça s'est jamais arrêté.
On est à Genève, dans le fantastique atelier de Zep, et on a encore beaucoup de choses à se dire. On verra avec toi, Zep, comment tu conçois un nouvel album de Titeuf, notamment le dernier, qui s'appelle « Suivez la mèche ». Et puis on parlera aussi de tes one-shots, de tes romans graphiques, de Tcho, ce magazine qui a fait découvrir toute une génération d'auteurs. Bref, si ça vous dit, on reste encore un peu dans l'atelier BD de Zep. Rendez-vous donc au prochain épisode. En attendant, lisez des Titeufs.